France Inter. Le 18-20. Fabienne Synthèse.
Une manœuvre désespérée pour essayer de sortir par le haut ou une vraie ouverture, la première brèche vers une indispensable union, le début de quelque chose ou la fin des haricots. La proposition d'Anne Hidalgo d'une primaire ouverte, donc proposition subite, fait suite à celle d'Arnaud Montebourg qui veut offrir sa candidature. Mais on ne peut pas s'empêcher de constater qu'aucun de ces deux-là n'avait jamais créé l'élan espéré. Les réponses à cette proposition de ralliement que les électeurs de gauche réclament depuis le début ont été assez lapidaires. Pour les insoumis, pour les verts, pour les communistes, c'est non. Vous avez entendu comme nous cette rumeur d'une Christiane Taubira qui ne dit toujours pas oui mais qui ne dit plus tout à fait non. Et puis il y a la primaire citoyenne qui vient rappeler qu'elle est là depuis le début. Bref, s'unir ou mourir, c'est bien le danger pour la gauche en ce moment. On va se demander ce soir si c'est la proposition d'Anne Hidalgo qui fait pchit ou si c'est la gauche tout entière. S'il reste un fil à tirer et si ce sont les militants qui peuvent encore le tirer, quels militants, ou s'il faut assumer de passer son tour cette fois-là pour se reconstruire et comment. Gauche divisée, recherche rassemblement pour mieux régner, c'est le téléphone sonne ce soir et soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Le premier, c'est vous, Martin. Bienvenue, Martin, et bonsoir.
Oui, bonsoir, Fabienne.
On vous écoute.
Ouais, merci. Déjà, merci pour la qualité de vos émissions qui sont toujours au rendez-vous. Moi, j'ai plus un commentaire qu'une question ce soir. Je vous donne le contexte sur ma situation. Moi, je suis un électeur de gauche, et toujours, d'ailleurs, par principe, au moins, et au moins au premier tour, à la gauche de la gauche. Mmh. Aujourd'hui, j'ai 35 ans. Moi, j'ai été éveillé à la politique par le traumatisme d'un Le Pen au second tour en 2002. Mmh. Et donc, le traumatisme, famille blafarde devant la télé, toute la jeunesse dans la rue le lendemain, etc. Moi, j'ai 15-16 ans, je ne votais pas. Et ça nous faisait peur. Et aujourd'hui, donc, j'ai 35 ans, je le rappelle. Depuis 2002, moi, je me suis construit politiquement, notamment autour de la notion des partis républicains contre ceux qui ne seraient pas républicains et aussi de la peur que j'ai ressentie avec le résultat de 2002. C'est pour ça que je vois aujourd'hui quand je vois l'éclatement de la gauche, ça me renvoie à vraiment une irresponsabilité politique qui est complètement incompréhensible et qui de fait n'est pour moi clairement pas de gauche. Et du coup, malgré mon parcours et mon cheminement dans ma réflexion politique très à gauche, vu le contexte actuel et vu l'éclatement de la gauche, aujourd'hui faire barrage à l'extrême droite, bah, je me demande si c'est peut-être pas de voter Macron dès le premier tour, vu le contexte. Hein. Mmh. Et c'est peut-être ça le vote de gauche, selon moi, pour leur montrer qu'ils ne sont pas les bienvenus sur l'échiquier.
Voilà. Et merci beaucoup, Martin, pour votre question et pour cette entrée en matière, parce que effectivement, il y en a beaucoup des questions qui ressemblent à la vôtre, des interrogations qui ressemblent à la vôtre, et des gens perdus comme vous, en fait, comme le sont beaucoup de gens de gauche en ce moment, pour discuter ensemble jusqu'à 20h. Chloé Morin est avec nous, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes politologue associé à la Fondation Jean Jaurès. Rémi Lefebvre est avec nous également. Bonsoir, monsieur Lefebvre.
Bonsoir.
Vous êtes professeur en sciences politiques à l'Université de Lille. On salue et on remercie au passage nos amis de France Bleu Nord qui vous ont installé chez eux. Et puis Yael Gauze est là également, bien sûr, chef du service politique de France Inter.
Bonsoir, Fabienne.
J'entends deux choses. Je vais vous poser la question à tous les deux, mais Chloé Morin, commençons par vous. J'entends vraiment deux choses, c'est Martin. Il y a d'abord, du coup, je ne sais plus très bien où aller. J'ai l'impression que je dois me résoudre à ce qui est mon vote utile, et c'est intéressant tel qu'il le formule. Et il y a aussi, de toute façon, je suis perdu, je ne vois rien et je n'y comprends rien, Chloé Morin. Est-ce qu'il n'est pas un peu, en effet, l'archétype de l'électeur de gauche, Martin ?
Oui, tout à fait. Il illustre très, très bien deux choses, notamment, qui sont très majoritaires dans l'opinion de gauche. La première, c'est l'idée que finalement, arriver divisé à la présidentielle, c'est la certitude de faire de la figuration. Mmh. Et la deuxième, finalement, c'est de se dire le vote utile aujourd'hui, compte tenu des scores qui sont promis aux différents candidats de gauche. Je rappelle que le sondage Ipsos publié hier place à la fois Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot et évidemment Anne Hidalgo et le candidat PC en dessous de la barre des 10% et que tous ensemble, ils font moins de 25%. Mmh. Donc, l'idée que finalement, le vote utile contre Éric Zemmour, contre Marine Le Pen, c'est plutôt un vote Emmanuel Macron.
À quoi ça sert mon vote à gauche, il est voué à l'échec? Et si c'est finalement pour envoyer au deuxième tour une droite Pécresse et une extrême droite? C'est ça que nous disent les gens qui nous appellent en ce moment, Rémi Lefebvre.
Ben oui, il y a un énorme désarroi chez les électeurs de gauche qui sont beaucoup plus unitaires en fait que les dirigeants, qui sont totalement décontenancés et désespérés. Moi je crains aussi autant que pour la gauche en tout cas, autant que qu'un vote Macron au premier tour aussi, une abstention, c'est-à-dire que massive. C'est-à-dire qu'au fond, les électeurs de gauche peuvent se dire ces dirigeants ne nous respectent pas puisque finalement ils ne prennent pas en compte cette aspiration unitaire. Ils sont dans des logiques de différenciation, des logiques d'affirmation identitaire de parti, au-delà du fait qu'il y a effectivement des divergences. Et donc la tentation aujourd'hui pour un certain nombre d'électeurs, c'est de se dire finalement cette élection présidentielle, elle ne se joue pas du tout à gauche. Depuis un mois, on ne parle pratiquement pas de la gauche. On a enchaîné un agenda dominé par Zemmour, ensuite par la primaire de droite. On n'a jamais observé une telle droitisation de l'espace politique depuis des années. Je pense moi qu'il n'y a pas de droitisation massive ou unilatérale de la société. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus une droitisation de l'offre.
Une question de campagne ou une question de France qui, de toute façon, là, pour le moment, est vraiment plus à droite de toute façon. Et c'est pour ça que la gauche n'arrive pas à tirer son épingle du jeu.
Moi, je pense qu'aujourd'hui, on le voit très bien dans les sondages. Quand on regarde les sondages, la hiérarchisation aujourd'hui des enjeux prioritaires des Français, on voit les thématiques de pouvoir d'achat, les questions d'injustice, les questions d'inégalité, les questions de services publics qui sont à des très hauts niveaux. Et en fait, on voit très très bien que ça pourrait être des prises pour un discours de gauche. Sauf que la gauche aujourd'hui, elle est totalement inaudible. C'est-à-dire que comment faire passer une parole de gauche quand effectivement on a le sentiment d'une déréliction totale de la gauche, d'une fragmentation et de l'absence totale de perspective. Parce qu'aujourd'hui, c'est bien ça le problème. Personne aujourd'hui n'envisage une victoire de la gauche et même pas une qualification pour le deuxième tour. Et donc tout ça évidemment crée un désespoir à gauche que les électeurs de plus en plus ressentent et rejettent.
Et en même temps, Yaël, je pense à l'Europe, je pense au nucléaire, je pense à la laïcité. Et on pourrait en citer comme ça des exemples.
C'est pas les mêmes.
C'est ce que j'allais dire.
C'est pas les mêmes gauches.
Oui, mais est-ce que de toute façon vraiment, il y a une alliance autre qu'artificielle aujourd'hui.
C'est l'argument massu de Jean-Luc Mélenchon qui refuse littéralement aujourd'hui cette primaire proposée par Arnaud Montebourg et par Anne Hidalgo. Et il a réagi à l'Assemblée il y a une demi-heure en disant « Il suffit de me rendre fort, moi, et le problème sera réglé. C'est ridicule de faire ça maintenant, d'improviser ça si près de la présidentielle. Soyons sérieux », nous dit Jean-Luc Mélenchon. Il faut se souvenir quand même qu'en 2011, la primaire socialiste elle commence un an avant la présidentielle. Donc il est trop tard, dit Jean-Luc Mélenchon. Mais la réalité, c'est que vous avez sur plusieurs sujets, et l'Europe évidemment est un sujet majeur, et Emmanuel Macron passe son temps, on a vu la conférence de presse, à enfoncer des coins sur ceux qui sont eurosceptiques ou eurofédéralistes, je sais pas comment les appeler, et bien ça c'est évidemment une ligne de fracture qui sépare à gauche, mais mis dans un processus commun, est-ce que en faisant débattre ces gauches-là ensemble, est-ce qu'il peut pas en sortir autre chose? C'est ça le pari que tentent encore aujourd'hui ceux qui croient à la primaire.
Chloé Morin, j'ai envie de vous poser la question à vous aussi. Est-ce qu'il y a vraiment aujourd'hui un fil à tirer ou est-ce que, au fond, c'est Manuel Valls qui avait raison il y a plusieurs années en disant ces gauches-là, de toute façon, sont irréconciliables. Le dénominateur commun, où est-il? Qu'est-ce qui peut encore les rassembler, tout cela?
Je pense qu'il y a clairement des divergences très fortes, notamment sur la question de la laïcité, sur la question de l'Europe. Mais ce qui est intéressant, c'est de pointer le paradoxe aussi dans les discours des candidats eux-mêmes. C'est-à-dire que chacun dit matin, midi et soir, je vais unir la gauche derrière ma candidature, je vais rassembler. Et dès qu'on propose de se mettre en danger, enfin de mettre en jeu la candidature en disant c'est les électeurs qui vont choisir derrière qui ils veulent s'unir, là il y aurait des divergences insurmontables qui empêcheraient de rentrer dans la compétition. C'est assez paradoxal puisque Jean-Luc Mélenchon lui-même prétend réitérer l'opération qu'il a faite en partie en 2017, c'est-à-dire siphonner une partie des électeurs PS, voire aller chercher une partie des électeurs verts. Donc ça prouve bien qu'il imagine qu'il n'y a pas de divergence fondamentale qui empêcherait ces électeurs-là de venir sur sa candidature.
Je voudrais qu'on rejoigne Philippe qui est au standard. Bonsoir Philippe. Philippe, courez vers votre téléphone que vous avez posé quelque part. Allez, on vous écoute.
Bonsoir à tout le monde. Donc j'ai 53 ans, j'ai toujours voté à gauche et je suis désabusé. Je ne voterai jamais Macron ni au premier ni au deuxième tour Mais je ne prie vraiment pas pour qui voter. Parce que voter socialiste pour faire une politique de droite, ça ne m'intéresse pas. Et voter Mélenchon, c'est des idées qui sont plus proches. Et je trouve le personnage un peu dangereux. Voilà. Donc, je sais pas. J'irai voter, c'est sûr. Mais peut-être blanc, peut-être... c'est pareil. Monsieur Fabien Roussel, il se présente pour faire 2%. Mais c'est une question d'ego, c'est tout. Les électeurs, ils n'en ont rien à faire. Rien à faire.
Merci.
Et ça me déprime, ça me donne...
Bon, on l'entend du vote déprime, Philippe. On l'entend vraiment. Rémi Lefebvre, à l'instant, notre ami Philippe nous dit se présenter pour 2%, ça sert à rien. Est-ce que, au fond, la suite après une proposition comme celle-là, c'est quoi ? C'est s'il ne peut pas y avoir de primaire. Est-ce que c'est de se dire ça quand on est candidat de la gauche aujourd'hui ? Ok, je sais que je n'irai pas à 5%, donc la candidature témoignage après tout, est-ce qu'elle sert à quelque chose ? Est-ce que c'est ça au fond, j'allais dire le vrai courage politique, de dire bon, on n'arrive pas à se mettre ensemble, mais on éparpille moins. Du coup, ceux qui sont vraiment dans un tout petit score s'en vont.
Mais écoutez, c'est déjà il y a déjà une forme de décantation qui s'opère, parce que évidemment les appels hier de Montebourg ou d'Hidalgo émanent en fait de candidats qui sont déjà qui n'arrivent pas à se lancer dans la campagne, et donc c'est pour ça aussi que finalement cyniquement les écolos et les insoumis refusent la primaire, c'est puisqu'ils disent finalement on va vous absorber, et la primaire par les sondages est en train de commencer, parce que c'est ça qui risque de s'opérer, hein. Chloé Morin l'a évoqué tout à l'heure, il y a eu une primaire par les sondages qui a eu lieu en 2017, qui a profité à Jean-Luc Mélenchon, et donc effectivement c'est le calcul aujourd'hui de Jadot ou de Mélenchon, c'est-à-dire de dire à un moment donné en janvier, quand la campagne va peut-être vraiment démarrer, alors il faudrait encore que la gauche puisse se faire entendre dans cette campagne, rien n'est moins sûr vu son état de fragmentation, et bien à ce moment-là, effectivement, il y a un candidat de gauche qui va se décanter, et donc finalement la gauche implicitement, les dirigeants de gauche demandent aux électeurs de départager des candidats qu'ils n'ont pas eu le courage de départager eux-mêmes par les sondages. Après, moi, je pense, et malheureusement, que dans cette élection présidentielle, il y a des enjeux cachés. Et que, au fond, beaucoup, beaucoup de candidats, de partis, c'est pas des questions d'ego, c'est des questions d'appareil partisan. Et aujourd'hui, effectivement, le Parti Socialiste, les communistes, alors c'est flagrant, mais aussi la France Insoumise et les écolos, quand vous discutez avec leurs dirigeants, évidemment, ils sont assez lucides. Ils vont pas gagner l'élection présidentielle. Il y a peut-être que les Insoumis qui y croient vraiment. Mais ce qui joue, c'est le coup d'après. Ce qui joue, c'est le coup d'après, c'est, alors avec des calculs, à mon avis, totalement, pas franchement rationnel, hein, les législatives, les dotations publiques, la reconstruction de la gauche, la succession de Mélenchon, etc. Et donc en fait, on voit, et c'est assez désolant, c'est que finalement, on a des candidats de gauche qui enjambent le scrutin présidentiel, qui se projettent dans d'autres scrutins. Or aujourd'hui, la situation de la gauche est quand même très inquiétante. Et penser qu'on va passer son tour, alors qu'il y a une telle droitisation du débat public, alors que aujourd'hui l'extrême droite, et je ne dramatise pas la situation, elle est quand même au bord du pouvoir, c'est une forme d'irresponsabilité chez les dirigeants de gauche. Et donc jouer simplement ce calcul un peu cynique de la reconstruction des élus, on le voit avec Fabien Roussel qui en fait une campagne de communication pour le Parti communiste. Il sait très très bien qu'il va pas dépasser les 5%, mais il y va parce que le Parti communiste s'est effacé à deux reprises derrière Mélenchon, et que effectivement il faut qu'il fasse vivre son appareil, ses élus, son groupe parlementaire, etc. Voilà, tout ça n'est quand même pas très très n'est pas très glorieux pour les dirigeants de gauche, et effectivement moi je maintiens qu'il y a une forme d'irresponsabilité politique dans leur attitude.
Rémi a raison, il y a des matchs dans le match qui échappent un peu là aussi au bon sens. C'est Fabien Roussel, les communistes, contre les insoumis. Bien sûr. Il y a une bataille pour les parrainages. Il faut voir aussi que ça décante par les parrainages, hein. Tout le monde n'aura pas forcément ses parrainages pour être sur la ligne de départ parmi les 7 à gauche. Le 4 mars à 18h, c'est la deadline pour remettre au Conseil constitutionnel ses parrainages. Puis il y a le match aussi écolo-socialiste. Qui est devant qui ? Qui est le premier devant qui ? Parce que vous avez Olivier Faure qui, il y a un an et demi, disait « Moi, ça ne me dérange pas, comme premier secrétaire du PS, que l'on se range derrière plus fort que nous si les écolistes sont plus
bien
forts. »
Bien sûr, on s'en souvient très bien.
Et aujourd'hui,
vous avez parlé ce matin sur Inter, et la réponse était assez floue, de vous à moi. moi.
Et aujourd'hui, on a le phénomène inverse, c'est les écolos qui ne veulent plus s'effacer, eux, puisqu'ils l'ont déjà fait en 2016, derrière un Benoît Hamon de 2021, un nouveau Benoît Hamon. Donc c'est un peu sans fin, c'est évidemment des querelles de part de marché.
Je comprends ce que dit Rémi Lefebvre et ce que dit Yaël Gauz, Chloé Morin, mais est-ce que ça vaut aussi pour Anne Hidalgo? Qu'est-ce qu'elle a à y gagner? Moi, j'ai l'impression que là, en l'état, elle a plutôt tout à y perdre, si ce n'est, si ça ne marche pas, qu'elle ne peut pas partir et qu'elle devra donc boire tout cela jusqu'à la lie. Qu'est-ce qu'elle peut bien y gagner, elle?
Non, je pense que en faisant ça, elle récupère quelque chose qui, du point de vue de l'opinion de gauche, est très important. C'est le talisman de l'union. Quelque part, longtemps, l'union se faisait derrière le Parti Socialiste parce que le Parti Socialiste pesait suffisamment pour contraindre les partis d'appoint qui pouvaient se rallier à lui. Et donc aujourd'hui, évidemment, le Parti Socialiste ne pèse plus ce qu'il pesait il y a encore 10 ans. Mais pour autant, on ne peut pas dire que les écolos aient vraiment pris le leadership. La différence entre l'intention de vote de Yannick Jadot et celle celles qui sont prêtées à Anne Hidalgo sont c'est à peu près
2 points,
3 points maximum. Donc c'est vraiment pas significatif. Et c'est bien pour ça que, au fond, le calcul d'Anne Hidalgo, c'est de dire peut-être que en envoyant ce message-là, un message qui est attendu par beaucoup de d'électeurs de gauche et y compris des électeurs de écologistes, peut-être que ça peut créer soit une pression de l'opinion sur les cadres des écologistes notamment qui refusent une primaire, ou bien ça peut aussi lui donner peut-être une prime dans les sondages et si elle repassait devant Yannick Jadot, ça pourrait éventuellement permettre de renouveler un peu son discours et en tout cas de lui permettre de changer un petit peu le récit de sa campagne. Parce qu'aujourd'hui, on voit bien que sa campagne à elle tourne à vide, mais celle de Yannick Jadot et même celle de Jean-Luc Mélenchon ne sont pas en dynamique non plus. Donc, pour répondre à votre question, je pense que elle n'a plus vraiment rien à perdre. C'est surtout ça le sujet. Et donc, elle fait un pari, mais je ne pense pas qu'elle prenne beaucoup de risques.
C'est aussi une porte de sortie possible si jamais ça se passait mal, pour dire je pars avec les honneurs.
J'aurais essayé.
Elle dirige l'une des plus grandes villes du monde jusqu'en 2024 si je dis pas le 25. Et elle a là les Jeux Olympiques à Paris. Donc il faut pas sortir trop abîmé non plus de la séquence.
On parlait Yaël, puisque je vous tiens, de Yannick Jadot à l'instant, qui lui aussi effectivement est pas mal chahuté. Il a eu une campagne chahutée de toute façon. Il a eu une primaire un peu difficile. La campagne s'est rechahutée récemment avec des relents d'histoire de Nicolas Hulot, avec le départ de Mathieu Orphelin. Il y a une poussée, on le voit bien, de Sandrine Rousseau juste avant. Et c'est le sens de la question de Jean-Marc qui est à Bergerac et qui nous parle de cette fameuse primaire populaire. Et c'est 240 000, 250 000, même inscrits à ce jour. Pas besoin de l'accord des candidats pour désigner celui qui sera de toute façon le plus rassembleur, nous dit Jean-Marc. Est-ce que c'est par là que cette primaire populaire peut essayer de pousser?
C'est ce qui va peut-être bouger dans les prochaines heures, qui commence à bouger depuis hier. C'est une primaire qu'on regardait un peu de loin, comme une tentative de jeunes, essayants, trentenaires, de faire bouger la gauche. C'est lancé au mois de mai sur Internet. On en parlait très peu, et puis petit à petit, le nombre d'inscriptions devient important. On est au-dessus du nombre d'adhérents LR quand ils ont voté pour LR, au-dessus du nombre de votants à la primaire écolo.
Qui était 120 000, 150
000. Peut-être qu'il y avait les mêmes d'ailleurs
les autres,
dedans, en partie. Et l'idée, c'est évidemment de faire sortir un candidat unique, mais bon gré mal gré. C'est-à-dire que celui qui est désigné vainqueur lors du vote fin janvier, normalement, c'est un mandat impératif. On doit lui dire, c'est lui, mais s'il n'a pas envie, il n'y va pas. Ouais. Donc c'est ça le problème. L'intérêt là de l'opération, selon ses promoteurs, c'est qu'aujourd'hui, Arnaud Montebourg, Anne Hidalgo pourraient s'inscrire dans ce processus. Il suffirait, nous a-t-on dit, de faire décrocher Yannick Jadot, de l'inscrire dans cette primaire pour que la dynamique puisse prendre. Donc tout l'enjeu en ce moment, ça va être une pression féroce de la base aussi, peut-être de chez les écologistes, pour aller vers cette primaire que Yannick Jadot refuse pour l'instant. Mais vous avez des petits craquements depuis ce midi. Vous avez dans le camp de Sandrine Rousseau, qui a pesé 49% à la primaire, Alice Coffin par exemple, qui s'est exprimée à 18h pour dire bah c'est une opportunité de faire parler des sujets de la gauche, d'avoir nous aussi des soirées électorales où on parle des idées de gauche et on débat entre gens de gauche, c'est ce qu'elle dit. Alors saisissons l'occasion. Yannick Jadot dit non pour l'instant, mais il n'est pas dit qu'il n'y ait pas une pression qui monte dans les jours.
Et ben voyez, le moyen terme, il est juste là, c'est celui de Simon. Bonsoir Simon.
Oui, allô ?
On vous écoute Simon, allez-y.
Bonjour. Alors moi, je pense que j'ai la solution
bah
à
oui.
tous nos problèmes.
C'est pour ça que je vous prends vous, je voyais votre question, vous avez raison, vous arrivez pile au bon moment. Bravo Simon, allez-y.
Donc moi, je pense que en fait, ce qui est intéressant dans une primaire, c'est pas tellement le résultat, c'est les débats. Parce que là, on passe plus de temps à se demander est-ce qu'il faut faire une primaire ou pas une primaire, et on parle pas du tout du fond. Et je pense que si on veut que la gauche, elle devienne plus forte, il faut qu'il y ait des débats souvent où on parle du fond. Donc s'il vous plaît, France Inter et les autres médias, organisez des débats entre les candidats et les candidates de gauche, c'est-à-dire de Anne Hidalgo jusqu'à Philippe Poutou. Mais
on est assez exemplaire. Hein. On a fait la primaire écolo, on a fait le grand débat avec France 2 pour le congrès LR. Effectivement, bah, si un processus électoral a lieu, on en reparlera. Pour l'instant, il est virtuel.
Même s'il n'y a pas de processus électoral, faites-le, parce que les candidats de droite, on les a entendus 4 fois discuter entre eux, et c'est intéressant justement parce qu'ils confrontent leurs projets. Et ben qu'on puisse entendre les candidats de gauche confronter leurs projets et non pas se confronter sur est-ce qu'il faut faire une primaire ou pas.
Mais, donc voilà. Merci beaucoup Simon. Chloé Morin, il est là le moyen terme, il a pas tort Simon, qu'est-ce que vous en dites ?
Oui, d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que dans l'équipe d'Anne Hidalgo même, on utilise cet argument. C'est-à-dire que ils disent finalement, les médias ont tout intérêt à organiser ce genre de débat. Parce que, on voit bien que ça fait de l'audience, voire beaucoup d'audience. Après, ça dépend de la qualité évidemment des débatteurs, mais ça crée un événement et quelque part ça permet de raconter des affrontements qui sinon se font à distance par carte postale interposée et par petites phrases. On voit bien qu'il y a une appétence des électeurs pour ce type de débats, de choses qui permettent de comparer les candidats les uns aux autres. Et donc, pour le coup, l'intérêt des médias semble plutôt aligné avec ceux qui proposent une primaire de ce point de vue-là.
Mmh. David, bonsoir. David, est-ce que vous êtes là ? David ! Voilà, mais absolument, allez-y David, on vous écoute.
Voilà, donc je vous écoute depuis le début de l'émission et je me rends compte que cette gauche pour laquelle j'ai toujours voté et que j'aimerais bien voir gagner aux prochaines élections, elle est représentée surtout par des gens d'appareil et par des gens qui est de... Même si ça a été démenti par quelques-uns de nos intervenants, mais qui voient quand même leur propre intérêt d'une certaine façon. Et il y a quelques jours, j'ai entendu le nom de Christiane Taubira sur France Inter, parce que c'est ma principale source d'information, comme potentielle, éventuelle candidate, et ça a éveillé chez moi un espoir fou. Je me suis dit, voilà enfin quelqu'un de rassembleur, quelqu'un qui évoque quelque chose, qui est sincère. Et j'ai rêvé que tous ces gens de gauche, Anne Hidalgo et Yannick Jadot, etc., se disent « Ah ben non, effectivement, notre candidature, elle sert pas à grand-chose parce qu'on est tellement divisés que de toute façon, on part battu. » Alors que si on s'efface tous devant Christiane Taubira, peut-être que la gauche a une chance, effectivement, de revenir au pouvoir. » Alors je ne sais pas si c'est toujours d'actualité, malheureusement.
Eh bien, on va poser la question tout de suite. Rémi Lefebvre, c'est vrai que cette candidature de Christiane Taubira, elle rentre par la fenêtre, elle sort par la porte, elle repasse par la fenêtre. Elle était dans la liste de cette fameuse primaire populaire, puisque les noms inscrits sont tous les noms que souhaitent les gens, on charge pour eux de voter, puis ensuite, effectivement, même s'ils sont en tête et qu'ils ne veulent pas y aller, ben ils n'y vont pas. Mais du coup, on se demande là-dedans si ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui est du domaine de la rumeur. Qu'est-ce qu'on sait réellement ? Qu'est-ce qui est vrai là-dedans ?
Écoutez, je ne sais pas. Moi, je suis pas dans la tête de Madame Taubira. Effectivement, c'est une espèce de d'hypothèse qui circule. Alors, certains disent une chimère, certains disent un recours, le recours à une femme providentielle qui a pas été trop abîmée par le pouvoir. En même temps, bon, je voudrais pas doucher les espoirs, mais d'abord, je pense que elle ne peut arriver que dans le cadre d'une primaire, donc elle peut pas comme ça sortir du lot parce que elle n'arrivera que si on départage un certain nombre de leader. Et donc, du coup, il faudrait, son irruption est conditionnée par l'organisation d'une primaire. Et par ailleurs, voilà. Et sinon, il faut qu'elle ait un parti. Parce que c'est toujours pareil. La politique, c'est aussi des ressources collectives. Elle serait la candidate de qui? On a vu avec Montebourg ou avec Xavier Bertrand que des stratégies hors parti, bon, Zemmour offre un démenti, mais sont complexes. Et donc, par ailleurs, attention, j'ai l'impression qu'il y a un peu un fantasme autour de Mme Taubira. Qu'est-ce qu'elle pense économiquement? Quel est son programme? C'est-à-dire qu'elle me fait penser un peu des figures comme Jacques Delors, qui dans les années 90, comme ça, avait germé, parce que c'est des gens qui ne se positionnent pas vraiment sur un certain nombre de questions, qui incarnent une espèce de gauche humaniste assez consensuelle. Mais aujourd'hui, effectivement, il y a aussi des divergences à gauche. Et comment Christiane Taubira se situe par rapport à ces divergences? Voilà, moi j'ai l'impression qu'on court après un peu une lune et que finalement c'est pas tout à fait cette option-là qui me paraît réaliste. Et donc pour revenir à ce que disait Simon, alors des débats sans processus électoral, moi j'avoue que j'y crois pas trop non plus, parce que on peut organiser des débats, mais à un moment donné, effectivement, l'avantage de la primaire, c'est que ces débats sont tranchés et on a vu à quel point aussi ça pouvait effectivement avoir un effet médiatique. Il y a eu un effet pour Jadot, alors pas énorme, de la primaire écolo. Il y a eu un effet pour la droite de la primaire LR. Le problème, par exemple, d'Anne Hidalgo, c'est qu'elle est apparue comme avalisée par le Parti Socialiste sans débat. Donc il y a un effet propulsif des primaires. Le problème, c'est que là aussi, il y a une question de timing. Il faut pas tarder, parce que une primaire, ça il faut quand même l'organiser, il faut un socle commun, etc. Donc il y a aussi un certain nombre d'obstacles matériels à l'organisation des primaires.
Yael, on sait peu de choses en fait sur Christiane Taubira. C'est vrai qu'il y a un peu du name dropping un petit peu là.
Alors oui, on sait d'abord, pardon.
On sait qu'elle a appelé chaque candidat de gauche pour dire que cette situation lui paraissait insupportable.
Là récemment, vous voulez dire.
Voilà, très récemment, dans les derniers jours, elle a appelé Anne Hidalgo, elle a appelé Yannick Jadot pour dire que ça pouvait plus continuer comme ça, qu'elle-même ne pouvait plus supporter de voir sa France être à ce point extrémisée, zémourisée, pour reprendre cette expression. Donc ça, c'est une réalité. Après, qu'est-ce qu'elle fait de ça? Qu'est-ce qu'elle construit derrière ça? On ne le sait pas encore, elle se laisse le temps de la réflexion, mais on n'en sait pas beaucoup plus aujourd'hui.
Par ailleurs, elle avait déjà dit non, parce qu'on lui a posé la question à peu près un million de fois à Christiane Taubira. Elle a déjà dit non, elle avait même donné des raisons extrêmement précises, Yael.
Oui, la crainte d'être cette femme de gauche qui laisserait l'extrême droite gagner le pouvoir en France. C'est-à-dire considérer que sa personne à elle serait tellement clivante qu'elle laisserait passer, qu'il y aurait un vote contre elle, droite, extrême droite, qui aboutirait au contraire de les faire chercher. Elle s'est confiée là-dessus.
Il y a ce paradoxe, Chloé Morin, je trouve, moi, chez les électeurs de gauche. Par exemple, j'ai entre les mains une question d'Anne qui nous dit « Je ressens la même chose que le désarroi de Martin, qui était notre premier auditeur. Je comprends absolument pas cette impossibilité de construire. Personnellement, dit-elle, je me moque du nom du représentant. J'ai besoin que les idées de gauche soient portées. » Et dans le même temps, on a à l'instant notre ami auditeur qui nous dit « Où est Christiane Taubira ?» Ou donc on a bien le sentiment, effectivement, qu'on attend en tout cas une incarnation, quelqu'un de providentiel. Est-ce qu'il n'y a pas toujours cet énorme paradoxe dans l'électorat de gauche?
Oui, bien sûr. Mais c'est d'ailleurs pas que dans l'électorat de gauche, c'est-à-dire qu'on a quand même un culte de l'homme providentiel très très fort, et on a tendance à penser que tous les 5 ans, la personne qu'on va élire à la présidence de la République va pouvoir régler tous nos problèmes. Donc ça, c'est quelque chose qui fait partie de la culture politique française, et que finalement, même si une partie de la gauche remet cela en question et conteste notamment les institutions de la 5e République, la majorité, y compris des électeurs de gauche, souhaite se retrouver en une femme ou en un homme. Et donc, finalement, ça a été très bien dit tout à l'heure, ce qui fait le plus obstacle à l'union, qu'elle passe par la primaire d'ailleurs ou pas, ce sont des intérêts d'appareil. C'est des questions de financement. C'est le fait que, à partir du moment où la présidentielle surdétermine l'ensemble de la vie politique, si vous n'avez pas de candidat à la présidentielle, dans ce cas-là, vous allez peser moins dans les législatives, y compris dans le cadre, éventuellement, ce qui, à mon avis, se fera, c'est une union d'une partie de la gauche pour envoyer des candidats communs aux législatives. Dans ce cadre-là, évidemment, si Yannick Jadot a fait 10 et Anne Hidalgo a fait 5, par exemple, c'est plus facile pour Jadot de dire, nous, on veut 150 députés, enfin 150 investitures, et vous, vous en aurez moins. Donc, et ça, une fois que vous avez les élus, vous avez des financements, enfin tout ce qui fait la vie politique d'un parti et qui assure la survie d'un parti entre deux échéances électorales. Et donc, ces calculs-là, effectivement, sont paralyse l'ensemble de la gauche pour l'instant.
Il y a
et inversement, si jamais elle se retirait à Hidalgo, elle pèse aussi dans la balance, c'est-à-dire qu'elle peut aussi sauver un groupe socialiste à l'Assemblée important par rapport aux écolos en se sacrifiant. Il y a tout ça aujourd'hui qui est pensé, qui est impensé en fait publiquement, mais qui est pensé en coulisses.
Et qui doit effectivement bien faire travailler les réunions en ce moment. Guy est avec nous. Bonsoir Guy.
Bonsoir.
On vous écoute.
Eh ben moi, ce que je voulais dire, c'est que on revotera volontiers pour la gauche quand elle nous reparlera de progrès social, choses qui ont disparu depuis un certain temps. Quand on entendra, comme l'avait dit Sandrine Rousseau, sous mon quinquennat, si j'étais élue présidente, les riches seraient moins riches, et je l'assume. Qu'on nous parle de services publics, qu'on défende les services publics, qu'on arrête cette sanctuarisation, cette sanctification des entreprises où on prétend que seules les entreprises créent de la richesse. Non, l'administration, l'État, s'il ne créait pas de richesse, il aurait disparu depuis longtemps. Il est fondamental pour la qualité de vie, la civilisation d'un pays. Qu'on lutte contre la pauvreté, qu'on ait un vrai des plans.
Et ça, Guy, vous l'entendez pas, c'est aucun candidat de gauche, ni même chez les communistes, ni chez les mélenchonistes.
Je l'ai entendu chez une seule personne, c'est Sandrine Rousseau.
Et du coup, vous faites quoi au premier tour, sans indiscrétion? Vous faites quoi? Vous le savez déjà ou pas?
Ah ben, je le sais pas encore, non. Okay. On en parle entre collègues et c'est très difficile, on sait pas.
Merci Guy pour votre question. Rémi Lefebvre, à force de parler en effet d'appareils, de mécaniques qui ne fonctionnent pas, de bisbilles qui peut y avoir à l'intérieur, pendant que, c'est vous qui l'avez souligné également, on a bien vu qu'effectivement la droite qui organise des débats, etc. Est-ce que, effectivement, cette campagne à gauche, elle manque de fond? Est-ce qu'elle manque de ce que Guy est en train de nous expliquer dans ce qu'il aime lui? Est-ce qu'il y a des problématiques qu'on n'entend pas alors qu'on devrait déjà les avoir entendues beaucoup?
Écoutez, moi, quand on regarde les programmes des divers candidats, il y a énormément de richesses, il y a des idées. Je veux dire, concrètement, il y a même une variété idéologique. Chez Montebourg, il y a une tonalité souverainiste, il y a effectivement un industrialisme intéressant, les écolos ont des choses à raconter, les socialistes ont fait un, alors sans doute un peu trop timide, mais un bilan du bilan de François Hollande. Il y a aussi la France insoumise qui tient un discours de radicalité. C'est assez étonnant, finalement, Guy finalement aspire à une forme de radicalité. Et pourquoi, par exemple, cette aspiration à la radicalité qui existe dans la société ne profite pas à Jean-Luc Mélenchon? Ça, c'est vrai aussi. C'est un échec aussi pour la France insoumise. C'est-à-dire que globalement, il y a aussi une gauche finalement qui rejette ce qu'a été le social-libéralisme de François Hollande, effectivement, et qui a vécu ce mandat comme un traumatisme. Mais finalement, cette gauche qui n'est plus, qui veut rompre avec le Parti socialiste, finalement, elle ne porte pas d'autres candidats. Alors effectivement, je pense qu'il y a un problème de discrédit aussi finalement de ces étiquettes de gauche. Il y a une forme de les électeurs français, je pense qu'ils sont plus à gauche qu'on ne le croit, mais ils n'y croient plus. C'est-à-dire qu'ils n'y croient plus. C'est-à-dire qu'ils ont tendance finalement à avoir ce désenchantement qui est assez classique après l'exercice du pouvoir à gauche. Mais il y a aussi un problème de débat public. La parole de gauche n'existe plus aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est, on entend de l'immigration, on entend de la sécurité. On entend des discours extrêmement réactionnaires. Et donc, finalement, il y a un manque de pédagogie. La gauche, c'est quand même... peut-être que ça va paraître un peu prétentieux de dire ça. En tout cas, un peu peut-être... ça appelle à la rationalité. Ça appelle au raisonnement. Hein. La gauche, c'est aussi le refus de l'ordre social existant. Ça appelle une rupture avec les évidences. Ça demande du travail politique. Ça demande de la pédagogie. Et effectivement, je pense que la gauche, plus que d'autres forces politiques, pâtit de la dégradation du débat public. Parce qu'il finalement, on a un débat qui est simplifié à outrance, un choc des petites phrases, c'est la lutte des clashs. Et aujourd'hui, finalement, le discours de gauche qui demande un peu plus de complexité, on le voit très très bien sur l'écologie, ne passe pas le mur du son, parce qu'effectivement, il n'est pas audible. Alors évidemment, quand la gauche, en plus, est fragmentée, ça ne peut pas marcher.
Il y a un problème de com au sens communication, c'est-à-dire que vous parliez de la lutte des clashs, Rémi, mais il tombe dedans à bras raccourcis, j'ai envie de dire. Quand Anne Hidalgo démarre sa campagne en disant « je double le salaire des profs par deux » et qu'il y a tout le fact-checking derrière pour dire ce que ça coûte à l'État en termes de dépenses publiques et pourquoi que les profs et pas d'autres fonctionnaires.
Mais en même temps, la conversation a été lancée, mais c'est la dernière, c'est la première et la dernière conversation.
Et Arnaud Montebourg, quand il veut poser le problème de l'immigration qui n'est pas traitée par la gauche et qui le traite par Western Union, et on va couper les transferts d'argent, et qu'il n'est pas compris, pareil, il ne s'en remet pas, parce que dans cette ère du buzz ou du clash dont parle Rémi, je suis tout à fait d'accord avec ça, il y a besoin de placer sa mesure. Mais il ne faut pas se planter sur la mesure. Il faut le faire, il faut réfléchir à tout ce qui va se passer derrière en cascade et tenir le cap.
Chloé Morin, il y a cette suggestion de Bruno qui est à Paris et qui nous dit ceci, je suis en faveur de l'abstention massive pour contrer Macron qui sera réélu. Je suis dans le camp de l'abstention militante. Est-ce que vraiment ça sert à quelque chose, une abstention massive? Est-ce qu'on sait de toute façon le message que ça enverra réellement?
Non, parce que au fond, on a des institutions qui sont conçues pour fonctionner, y compris sur des bases électorales très très étroites. Mmh. C'est-à-dire, ça fait longtemps qu'en fait, au premier tour, on choisit un candidat et au second tour, on élimine. Et donc, on sait très bien qu'il y a une part d'artificialité dans l'adhésion à un président de la République dès le départ, et que de plus en plus. Se pose la question de la gouvernabilité du pays. On a eu quand même la crise des Gilets jaunes, par exemple. On voit bien que le capital politique, le capital de confiance d'un président de la République élu, a l'air de s'étioler de plus en plus vite. Et que donc le temps, y compris pour passer des réformes, et avoir une certaine acceptabilité des réformes conduites, ce temps-là est extrêmement... faible.
Mmh.
Et donc au final le fait de s'abstenir, j'ai l'impression que c'est plutôt un signal politique qui inquiète les politiques de manière relative, parce que finalement ceux qui sont élus, ils sont élus et ils se préoccupent pas trop de savoir par combien de personnes ils ont été élus.
Yael Gauze, il y a quelqu'un qui réagit sur Twitter et qui nous demande si l'homme ou la femme providentielle, est-ce que c'est pas complètement générationnel en fait? Est-ce que c'est pas une vieille habitude que d'attendre l'homme ou la femme providentielle, donc de la vieille politique aussi?
C'est fort possible qu'on vive sur un système 5e République avec cette figure gaulliste que tous les présidents ont en tête. On a vu dans les adhérents LR, dans le congrès LR, ne juraient que par cette figure gaulliste. C'est toujours la référence aussi Emmanuel Macron, qui le cite régulièrement. Effectivement, il serait peut-être temps de penser aussi à d'autres manières de faire la politique, mais ça, tant qu'on est dans la 5e en quinquennat, c'est pas facile.
Eh bien, ce sera le mot de la fin pour l'instant, en tout cas, parce qu'il y en aura d'autres sur ce sujet, des téléphones sonnent. Je vous remercie beaucoup pour vos très nombreuses questions, comme d'habitude, et je ne vous quitte pas sans avoir remercié pour la technique ce soir, Fabrice Desmaz et Philippe Duclos, qui ont passé une grosse partie de la semaine avec nous. Rémi Sistiaga est avec nous ce soir aussi, on l'embrasse. Tristan Gratte-Talon, pas très loin chez lui, Mélissa Delman et Nathalie Poitvin sont à la programmation. C'est Marie-Claude Pinson qui s'est occupée de la rédaction en chef et Clémentine Ducasse du site. Voilà, merci à tous.